Et sur France Inter, il est 19h. Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Tentative d'explication de l'abstention à la une ce soir. Record d'absence aux urnes au premier tour des régionales et départementales. La classe politique se renvoie la balle. Nous sommes à l'Assemblée dès le début du journal. Le nouveau mode de calcul de l'allocation chômage retoqué par le Conseil d'État. La réforme n'est pas remise en cause. Au sommaire également ce soir, pluie et inondations à Beauvais et à Reims. Un lycéen est porté disparu. La vaccination anti-Covid à la peine. 300 000 rendez-vous disponibles pour les prochains jours. Le variant Delta en ligne de mire. Le quadruple meurtre de la famille Troadec. Nous serons au procès à Nantes. La galère des supporters des Bleus qui doivent circuler en Europe en temps de Covid. Et au téléphone sonne Fabienne, les éoliennes.
Et oui, en mer et sur terre, les éoliennes qu'on a longtemps imaginées comme l'un des éléments de transition qui nous aiderait à diminuer notre part de nucléaire. Mais on est très en retard. Des contestations, il y en a parce que c'est bruyant, parce que ça dénature le paysage. Alors pour sortir des caricatures pour ou contre blanc et noir, on va essayer ensemble de comprendre ce que détruit en effet une éolienne, ce que ça rapporte en électricité, ce que dit votre facture aussi, et tout ça, ça se passe au 01 45 24 7000.
À tout à l'heure, 19h20.
France Inter.
La campagne continue, mais les listes sont maintenant déposées pour le second tour des régionales et des départementales. L'heure limite, c'était 18h, avec un mot-clé en tête pour les candidats, l'abstention, à plus de 65% dans 9 des 13 régions de métropole. Les députés se retrouvaient cet après-midi pour la première fois depuis dimanche et les échanges ont été très vifs. Voici le chef de file des députés LR, Damien Abad, ragaillardi par les scores de la droite au premier tour, et la réponse du Premier ministre Jean Castex.
Face à l'abstention massive de dimanche, nous devons tous faire preuve d'une grande humilité. Mais monsieur le Premier ministre, ne vous cachez pas derrière l'abstention pour masquer la réalité de votre défaite. Quelle légitimité démocratique a votre gouvernement aujourd'hui quand vous envoyez 5 de vos ministres en campagne dans les Hauts-de-France et que les 5 sont balayés dès le premier tour? Alors, monsieur le Premier ministre, votre mission c'est de gouverner la France. Pas de dynamité, la droite sans d'ailleurs y parvenir. Quand allez-vous vous concentrer sur l'avenir de la France plutôt que sur vos petits calculs électoraux qui ne font qu'abîmer notre démocratie ?
Heureusement que vous avez convoqué l'humilité. Il y a eu des élections régionales, elles ne sont pas terminées. L'abstention nous conduit à toutes et à tous, vous l'avez dit, à l'humilité. Appliquez-vous-la à vous-même.
Voilà donc comment on s'est écharpé à l'Assemblée sur cette abstention inattendue et inexpliquée. C'est vous qui avez enregistré tout cela. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Abstention à laquelle la majorité fait mine de trouver une parade.
Oui, depuis le début de la journée, au petit déjeuner de la majorité, à la réunion de groupe à l'Assemblée, il y a un sujet qui monte dans les rangs de La République En Marche, c'est celui de la modernisation de nos systèmes de vote. Et le président de l'Assemblée, cet après-midi, très solennellement, a pris la parole, c'est très rare, juste avant le début des questions au gouvernement, Richard Ferrand.
Mes chers collègues, je voudrais vous faire part de mon inquiétude. Comme citoyen, comme élu de la nation, l'abstention doit nous interroger. Dès la semaine prochaine, je proposerai des initiatives en ce sens.
En fait, depuis ce matin, toute la majorité présidentielle réfléchit à des modes de vote alternatifs. Autrement dit, ne plus se limiter à des bureaux de vote et surtout à du vote papier. Le Modem, qui a très souvent été en pointe sur ces sujets, a forcément dégainé le premier. Patrick Mignola, le président du groupe à l'Assemblée.
Il ne sert à rien de gronder bêtement les citoyens. Nous sommes les premiers responsables de ne pas leur avoir octroyé des modalités de vote modernes. Notre groupe avait proposé le vote par correspondance et le vote électronique pour les électeurs et la banque de la démocratie pour les candidats. Et rien de tout cela n'a été rendu possible.
Et rien de tout cela n'a été rendu possible. Pourquoi ? Parce que la majorité a été empêchée. Par qui ? Par le Sénat, majorité de droite, qui a freiné les réformes institutionnelles. La bataille politique n'est donc pas terminée. Et tant qu'on parle de cela, on ne parle plus des résultats.
Et on signale aussi, lors de ces questions au gouvernement, merci Karine, une dizaine de questions, c'est assez rare, questions sur les ratés de la propagande électorale, les programmes, les listes, on en parlait hier soir, qui n'ont pas été distribués aux électeurs dans plusieurs régions. L'exécutif a demandé aux prestataires de corriger tout cela pour dimanche prochain. Et 19 000 professions de foi ont été retrouvées dans une poubelle à Sartilly, dans la Manche, jetée par une employée d'Adrexo. C'est l'une des deux sociétés chargées de les distribuer avec la Poste.
La réforme de l'assurance chômage n'est pas remise en cause.
Mais le Conseil d'État suspend les nouvelles règles de calcul de l'allocation qui devait entrer en vigueur la semaine prochaine, le 1er juillet. La juge des référés explique dans son ordonnance que les incertitudes sur la situation économique ne permettent pas de les mettre en place. L'idée de ces nouvelles règles, c'est de favoriser la stabilité de l'emploi, mais surtout de faire des économies en rendant l'indemnisation du chômage moins favorable pour les salariés qui ont alterné inactivité et contrat court. Bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir.
Après novembre dernier, c'est une deuxième victoire donc pour les syndicats.
Et la première satisfaction de Denis Gravouille à la CGT, c'est pour les demandeurs d'emploi.
C'est une bonne nouvelle pour 1 150 000 personnes, c'est-à-dire plus d'un million de personnes qui ne vont pas voir leurs droits baisser, recalculés à la baisse dès le mois de juillet. C'est un camouflet pour le gouvernement. On ne peut pas dire ça autrement.
C'est le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence qui pose problème. Une nouvelle fois, en novembre dernier, le Conseil d'État avait pointé des inégalités de traitement trop fortes. Le gouvernement avait corrigé, mais le Conseil d'État suspend une nouvelle fois, estimant la situation économique encore trop incertaine pour la mettre en œuvre, comme le réclamait aussi la CFDT par la voix de Marie-Lise Léon.
On a beaucoup insisté sur le fait qu'on n'était pas d'accord sur les modalités de calcul. Ça, c'est un fait. Mais qu'on était aussi extrêmement inquiet du fait que le gouvernement veuille absolument que cette réforme entre en vigueur alors que personne n'y voit clair économiquement et sur le front de l'emploi.
La juge des référés ne se prononce pas sur le fond. Là-dessus, le ministère du Travail insiste. Ce sera la deuxième étape, rappelle Michel Bogat, Force ouvrière.
Quand j'entends la ministre du Travail dire qu'ils ne sont pas désavoués, mais ce n'est pas ce qu'on demandait. En référé. On demandait que ça soit suspendu et donc nous avons gagné au même titre qu'en 2020 et maintenant il faudra continuer à se battre pour obtenir l'annulation complète de cette réforme.
En attendant l'examen sur le fond, dans quelques mois donc, un nouveau décret sera pris en urgence pour prolonger les règles actuelles au-delà du 1er juillet, a précisé tout à l'heure la ministre du Travail.
Hélène Philly, les départements de l'Orne, de l'Eure et de l'Oise placés en vigilance orange crue. Météo France alerte sur les risques de montée des eaux, notamment de la Terrain, c'est à Beauvais et aux alentours la nuit prochaine, après les orages et les pluies des dernières heures, jusqu'à 60 mm à certains endroits. Un lycéen de 17 ans qui suivait la fête de la musique a été emporté par la rivière. La vingtaine de plongeurs mobilisés avec des drones n'ont toujours pas permis de le retrouver. Gérald Darmanin et Xavier Bertrand sont allés sur place ce matin. Inondation aussi à Reims, les troisièmes en moins de 3 semaines. Et comme à chaque orage, c'est l'avenue Jean Jaurès qui se transforme en torrent, avec des voitures et des sous-sols inondés. Et comme à chaque fois, Aurélie Jacquan, ce sont les riverains et les commerçants qui trinquent.
Il pleut encore, par endroits le bitume des trottoirs s'est soulevé et dans cette agence d'intérim, les pompiers nettoient.
On a nettoyé déjà une première fois les inondations de samedi et on recommence ce matin. On en a vraiment marre.
Clara est commerciale, en 20 minutes, 10 cm d'eau dans toute l'agence.
Et même si nous on fait quelque chose, on a une porte qui est commune avec les communs. Et la porte des communs, il y a un jour en dessous, donc du coup ça sert strictement à rien parce que l'eau, si elle passe pas par devant, elle passera par derrière.
Des inondations auxquelles les commerçants sont malheureusement habitués, avenue Jean Jaurès, depuis des années. Mais avant, c'était une fois par an, l'été, pas plus. Sébastien est coiffeur.
Et d'ailleurs, quand ils s'installent, les nouveaux, on leur dit, bon, faites gaffe quand même parce que c'est inondable ici. On dit, ouais, ici c'est une fois tous les 2 ans, 3 ans, bon bah voilà, ça va, bon bah pas de bol, c'est trop fond en 2 semaines.
Alors il a installé une pompe au cas où, il garde les yeux rivés sur la météo, mais il espère surtout que la mairie va trouver des solutions. Ben, lui, tient une épicerie.
Le problème, c'est qu'il semble complètement impuissant et il ne nous offre pas de solutions même alternatives pour pallier au manque de réparation, au manque d'investissement. Les évacuations qui datent de la Première Guerre mondiale, c'est des investissements qui doivent être faits.
Un projet de réservoir sur le parvis de l'église Saint-André est envisagé par la mairie, mais les travaux ne sont pas prévus avant l'année prochaine.
Et la mairie organise une réunion demain soir avec les habitants et les commerçants pour tenter de trouver des solutions. Reportage Aurélie Jacquan, France Bleu Champagne-Ardenne.
Manger moins de viande rouge pour prévenir le cancer.
C'est la conclusion d'une nouvelle étude publiée cette semaine dans la revue Cancer Discovery. Daniel Messager, l'idée n'est pas forcément d'arrêter de manger de la viande, mais d'en manger moins.
Une consommation excessive de viande rouge est classée cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Ça, on le sait depuis 2015. Et on le sait parce que des enquêtes épidémiologiques ont été menées. On trouvait davantage de cancers colorectaux chez les personnes se déclarant grosses consommatrices de viande rouge. Dans cette étude menée par des chercheurs de l'école de médecine de Harvard, sur 900 patients, c'est la première fois qu'une signature apparaît, à savoir que les tissus des tumeurs ont été comparés à du du tissu sain de côlon et une différence est bien ressortie, un certain nombre de mutations au niveau de l'ADN chez ces mêmes personnes dont on connaissait la forte consommation de viande rouge. C'est comme s'il s'agissait d'une trace spécifique. Le fer qui est présent dans la viande rouge produirait un effet oxydant entraînant la formation de tumeurs. On parle là de consommation excessive, c'est-à-dire plus de 500 grammes par semaine. Les autorités sanitaires recommandent de ne pas dépasser ce seuil, de privilégier la viande blanche. Mais ces informations basées sur des données scientifiques et plus uniquement du déclaratif sont donc très importantes pour délivrer des messages de prévention.
La santé encore, cette fois avec la bataille contre le Covid, les taux d'incidence sont presque au plus bas partout, mais les centres de vaccination ne sont pas assez occupés et ça devrait s'accentuer avec les vacances d'été. Près d'un quart des centres d'Île-de-France, par exemple, fermeront en juillet et août. Ceux de Seine-Saint-Denis devraient rester ouverts. La vaccination marque le pas. La Direction Générale de la Santé adapte sa stratégie pour les prochaines semaines et elle reste sur son objectif, Véronique Julia, 2/3 des adultes vaccinés avec 2 doses d'ici fin août.
Le message des autorités, c'est qu'il y a des doses en quantité et surtout de la place dans les centres. 300 000 créneaux proposés pour les 3 prochains jours qui permettent en plus de faire son rappel avant le 15 juillet, donc avant les grands départs. Les grandes vacances, c'est évidemment l'inquiétude dans la course contre la montre avec le variant Delta. Les centres de vaccination ont établi des plans de continuité de service pour l'été, mais forcément, les plannings sont un peu plus compliqués à faire en juillet et août. Et puis la demande se tarit. Des centres qui avaient un délai de rendez-vous de 2 à 3 semaines au mois de mai ont désormais des créneaux parfois disponibles le jour même. Alors pour cet été, 2 priorités. On va mettre des doses supplémentaires sur les lieux les plus touristiques. On va aussi privilégier le dispositif Aller Vert, vacciner au pied des tours dans les régions les plus reculées. Les centres de vaccination qui sont au cœur des opérations vont aussi davantage déléguer à la ville. Alors qu'il est 700 000 doses de Moderna sont disponibles en officine et en cabinet. Et dans les toutes prochaines semaines, les généralistes vont pouvoir directement s'approvisionner en Pfizer dans les centres de vaccination. On sait en effet que l'ultra-proximité peut faire tomber des résistances. Un médecin nous disait qu'avec un peu de pédagogie, il arrive dans son cabinet à convaincre à peu près la moitié des plus réticents.
Et aux États-Unis, l'objectif de vaccination fixé par Joe Biden ne sera pas atteint. Objectif de 70% de la population avec au moins une injection de vaccin au 4 juillet, jour de la fête nationale. C'était donc l'objectif du nouveau président américain. À Cuba, un deuxième vaccin devrait bientôt être disponible. Abdallah, le premier créé en Amérique latine, efficace selon ses concepteurs à 92,28% au bout de 3 doses. Il devrait recevoir l'autorisation des autorités d'ici début juillet. Et il fait déjà la fierté des Cubains sur place à La Havane. Domitille Piron.
Un vaccin qui sauve par amour pour le pays, titre ce matin Granma, le journal officiel du Parti communiste cubain. Ce vaccin, Abdallah, du nom d'un poème de José Martí, héros national de l'indépendance cubaine, affiche une efficacité de 92%. Pour le second vaccin cubain, Soberana, qui terminera prochainement les essais cliniques, le laboratoire d'État a annoncé 62% d'efficacité à partir de la 2e dose, quand l'OMS en préconise 50%. Des résultats communiqués fièrement devant le président et premier secrétaire du parti, Miguel Díaz-Canel.
On voit ici le résultat d'une grande fidélité à la pensée fondatrice de Fidel quand il a décidé de développer la biotechnologie à Cuba.
Cuba avait développé dans les années 80 son secteur des biotechnologies pour faire face à l'embargo américain que les Cubains considèrent comme une seconde pandémie qui frappe leur pays. Malgré tout, en 13 mois, les scientifiques des laboratoires d'État sont parvenus à développer 4 candidats vaccins, dont 2 devraient donc être approuvés par les autorités de santé cubaines d'ici juillet. Mais déjà 17% de la population a reçu une première dose de ces vaccins, comme Rainer Oliva Gomez.
On a toujours eu confiance. Et la biotechnologie cubaine a de très bonnes références au niveau mondial. Ce sont des travailleurs très professionnels. Nous avons confiance dans leur travail.
Confiance et fierté, bien sûr, avec de tels résultats. Mais la vaccination pourrait être retardée à Cuba du fait d'une pénurie de seringues. Domitille Piron, La Havane, RFI pour France Inter.
Et puis le Stade de France accueillera 14 000 spectateurs vendredi soir pour la finale du top 14 de rugby entre Toulouse et La Rochelle. Spectateurs répartis sur toutes les tribunes et toujours avec un pass sanitaire. L'OMS s'inquiète de son côté de la assouplissement des restrictions dans certains pays qui accueillent les matchs de l'Euro de football en ce moment.
Les réquisitions au procès Milan.
Le parquet requiert des peines qui vont jusqu'à 6 mois de prison avec sursis. 12 jeunes gens qui sont allés jusqu'aux menaces de mort contre l'adolescente après sa vidéo polémique sur l'islam en novembre. L'accusation demande la relaxe contre le 13e prévenu. Plaidoirie de la défense demain. Aux assises de Nantes, c'est Hubert Caouissin qui comparaît depuis aujourd'hui. 4 ans et demi après les 4 meurtres de la famille Troadec, la famille de son beau-frère. Tué à coups de pied de biche, puis dépecé et brûlé sur fond de lingots d'or introuvables. Il risque la perpétuité. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
La première à être entendue aujourd'hui, Corinne, c'était sa compagne, Lydie Troadec. Audition entre colère et auto-apitoiement.
Oui, elle parle d'une voix égale, vêtue d'un pull blanc, silhouette de ballerine menue, le visage encadré de longs cheveux bruns. Lydie Troadec est difficile à cerner. Ses mots sont souvent stéréotypés. Son frère Pascal, je l'aimais bien, dit-elle. Ses neveux et nièces, ils étaient gentils. Sa belle-sœur, pas de problème. Mot à mot, pourtant, elle décrit une enfance sans affection, un père dur et exigeant, une mère handicapée des sentiments. Ce frère dont elle dit avoir été proche, elle dit aussi qu'il la frappait, qu'il était jaloux d'elle, mais elle lui reproche d'avoir coupé les ponts. Lydie Troadec semble parfois flotter comme un bouchon au gré de l'eau. Les surnoms odieux donnés à son frère et sa belle-sœur, Crapule et la grosse dondon, c'était Hubert, dit-elle. Le vol d'or de la famille, aujourd'hui elle pense que ça n'a pas existé. Pourquoi ? Dans les médias on dit que ça n'existe pas, répond-elle du même ton placide. Le patient interrogatoire de la présidente finit par la faire vaciller. Lydie Troadec se dit en colère contre Hubert et contre elle-même. « J'ai pas vu qu'il était malade. Je suis passée à côté, dit-elle, en éclatant en sanglots. Je me culpabilise. Si je ne m'en étais rendu compte, tout ça ne serait peut-être pas arrivé. » Elle est jugée pour des délits de recel de cadavres et modification d'une scène de crime.
Corinne Audouin, en direct des Assises de Nantes avec Yves Lehorse. Le procès doit durer 3 semaines. La grève reconduite jusqu'à demain, 13h, à Europe 1, 5e jour du mouvement, sur fond de rapprochement avec CNews, dont Vincent Bolloré est aussi actionnaire principal. Les journalistes votent également une motion de défiance contre le directeur de l'information de la radio, Donna Vidal-Revel. On termine avec l'Euro de foot et un dernier match de poule pour les Bleus. Demain soir, ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale et ils ont rendez-vous avec le Portugal devant plus de 55 000 spectateurs, c'est à Budapest, dont 4 500 Français. Certains sont déjà là, mais c'est presque un exploit, Cédric Guillou. Suivre la compétition dans toute l'Europe en temps de Covid, ça ne rend pas les choses faciles pour les supporters de l'équipe de France.
Il y a d'abord pour tous les supporters la galère des tests PCR à répétition. Jean-Christophe vient de Fayence, dans le Var.
Moi, on m'a dit qu'il faut aimer le foot parce qu'on arrive, on fait le test PCR 72 heures avant, il ne faut pas le faire 74 heures avant, c'est trop tard, donc on ne peut pas prendre l'avion. Ils veulent le test PCR papier, donc il faut l'imprimer. Là, on nous l'envoie par mail aujourd'hui. Je sais pas comment on peut l'imprimer.
Le problème aussi pour tous les supporters tricolores, c'est que les règles changent en fonction des villes où jouent les Français. Jean ne comprend pas toujours tout.
Il n'y a rien d'uniforme. C'est-à-dire, il y a des pays qui pratiquent une certaine organisation. Il y a d'autres pays qui, derrière, se calquent un peu sur d'autres pays. Et on ne sait pas vraiment, au dernier moment, on reçoit des trucs de l'UEFA, des petits messages de l'UEFA. Attention, le truc a changé.
Les supporters des Bleus ne peuvent pas non plus se projeter sur la suite de la compétition. Impossible de savoir avant demain soir où et quand la France va disputer son 8e de finale. Et c'est un problème en plus pour Jean.
Jusqu'au dernier moment, pour rien réserver. L'angoisse, c'est un peu sur Londres, avec ses demi-finales et ses finales, dans la mesure où on ne sait pas si on est maintenu à rester en quarantaine, je ne sais pas.
Londres et le stade de Wembley, où Jean et Jean-Christophe espèrent quand même être début juillet pour soutenir les Bleus jusqu'à la fin de cet Euro.
En attendant, la certitude, c'est que le prochain rendez-vous pour les Bleus, c'est demain soir face au Portugal. C'est à 21h, c'est à Budapest et nous y serons. Et puis à Munich, il y aura Allemagne, Hongrie, avec la polémique dont vous avez parlé, autour des couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT qui ne sont pas donc sur le stade, mais qui seront dans les rues de la ville de Munich.
Merci beaucoup Sébastien Pavour, on se retrouve demain avec tout ça et d'autres choses encore. Dans un instant, le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne, on parle éolienne ce soir, sujet de discorde, un de plus peut-être, ça se passe au 01 45 24 7000, mais on jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Élodie Callec, un temps encore instable.
Oui, des orages qui s'atténuent tout de même au fil de la soirée. Attention, on a des crues en cours sur l'Oise et sur l'intérieur de la Normandie. 3 départements sont en vigilance orange. Demain, autour de la Méditerranée, vous aurez à nouveau du soleil, quelques passages nuageux l'après-midi, peut-être une averse sur le relief corse. Des pays de la Loire et de la Bretagne vers la Normandie, l'Île-de-France, jusqu'aux Hauts-de-France et aux Ardennes. On aura quelques averses encore possibles le matin, mais les éclaircies reviendront doucement. Elles deviendront belles de la Bretagne au Pas-de-Calais. Et puis ailleurs, ce sera à nouveau changeant. Quelques averses sur le sud-ouest jusqu'au centre le matin, des éclaircies plutôt belles dans l'est et puis l'après-midi, des orages se développeront d'abord en montagne, puis ils se généraliseront et ils pourront localement être forts et très pluvieux entre le massif central et les régions de l'est.
Et température un peu plus fraîche, Élodie, encore.
Oui, souvent 10 à 15 degrés le matin et puis l'après-midi, 15 degrés à Cherbourg, 18 à Lille, 20 à Paris, Nantes, Nevers et Biarritz, 22 à Bordeaux, 25 degrés à Lyon. Ça montera quand même du côté de Strasbourg avec 26 degrés et il fera 30 degrés à Marseille ou à Ajaccio, Fabienne.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup Élodie.